Europe Soir, le 18-20, Julien Buchy.
Il est 18h32, place au débat des grandes voix du mardi avec ce soir à mes côtés Charles Villeneuve. Bonsoir Charles.
Bonsoir.
Sophie Dravinel, bonsoir Sophie, grand reporter au journal Le Figaro.
Bonsoir Julien.
Emmanuel Duteil, bonsoir Emmanuel.
Bonsoir Julien.
En charge du service éco évidemment d'Europe 1. Alors ce soir on va parler ensemble du gouvernement qui accélère sur la vaccination. Il était temps, diront certains. C'est Olivier Véran qui l'a annoncé, le ministre de la Santé. Les pompiers et les aides à domicile, notamment de 50 ans et plus, y auront droit. Et tous ceux qui veulent par ailleurs se vacciner pourront se déclarer et s'enregistrer. Ça, c'est une vraie nouveauté. Olivier Véran, ce matin, à la radio, disait ceci.
Dans les prochains jours, il y aura une inscription possible pour les Français qui le souhaitent, par Internet, par téléphone sans doute, pourquoi pas par tous anti-Covid, pour que les Français qui souhaitent se faire vacciner puissent le faire savoir, s'inscrire et puissent prendre des rendez-vous. Encore une fois, nous n'aurons pas toutes les doses dont nous avons besoin du jour au lendemain, mais cela est important de la visibilité.
Très intéressant ce qui vient d'être dit. D'abord, à noter que c'est un virage à 180 degrés, évidemment, mais au moins le gouvernement a entendu les critiques et réagit très vite et très fort. Est-ce qu'ils sont en train de changer de stratégie, sans le dire, et de nous préparer une vaccination pour tous, d'une certaine manière, avec cette annonce, Charles Villeneuve ?
Ah, je le crois, en tout cas, si vous voulez. Moi, j'ai fait le tour de la plupart des maires, que je connais le mieux, évidemment, dans le Sud-Est. Aucune information précise. Les médecins libéraux n'en ont pas plus. Savent que s'ils ont plus de 50 ans, ils vont être parmi ceux qui pourront se faire vacciner assez rapidement. Mais pour l'instant, aucun ne sait où. Aucun. Ni le maire de Cannes, qui sera d'ailleurs demain, et qui en dira plus, l'invité de Sonia Mabrouk.
David Lisnard, oui.
8h15, David Lisnard. Ni le maire de Mandelieu, ni le maire de Toulon, ni la plupart des maires d'arrondissement de Marseille, etc. J'en ai appelé 7.
Oui.
Donc je peux à peu près être relativement précis par rapport aux autres maires. Je n'ai pas fait le Grand Est, je n'ai pas fait l'Île-de-France,
oui.
Mais j'ai fait le Sud-Est.
Non, mais on sent quand même qu'il y a un changement stratégique assez important, Emmanuel Duteil. Moi, je voudrais revenir sur cette grande annonce ce matin, parce que c'est un petit peu passé inaperçu, mais quand même, le fait que chacun puisse s'enregistrer demain en disant « Hey, toc toc, moi j'ai envie de me faire vacciner », on est quand même en train d'ouvrir le champ des possibles pour que on soit sur une vaccination volontaire.
Mais attention, là on est dans de la pure communication pour le moment, hein, puisqu'il manque un point essentiel, deux points essentiels, la logistique, donc les frigos, et il manque surtout des doses. Donc, dans un premier temps...
Il y en a 500 000 déjà. Ouais. Je ne sais pas où elles sont d'ailleurs, non, parce qu'on a vacciné 5 000 personnes là aujourd'hui.
Il y a un point très précis. Il manque des doses, donc on ne peut pas aller aussi vite que certains pays. Donc là, on est dans de la communication pour rassurer l'opinion publique. Et au même titre, quand il dit « peut-être qu'on pourra s'inscrire sur l'application Tous Anti-Covid pour les vaccins », je peux vous dire que du côté de chez Cédrico, qui est notre secrétaire d'État au numérique, on a à peu près découvert en direct à la radio qu'on allait leur demander de faire ça. Donc, ils vont travailler, ils vont sûrement l'intégrer du côté de l'application. Mais il y a une volonté très claire de répondre à ce qui est un souhait aujourd'hui de l'opinion publique, est un souhait d'une grande partie des partis politiques d'aller plus vite. Mais il faut aussi regarder, si vous regardez le calendrier qui avait été prévu, on avance d'un mois.
J'entends ce que vous dites, mais quand même, dans le même temps, le gouvernement annonce aussi 300 centres de vaccination qui seront mis en place.
Mais Julien, si on reprend l'exemple des tests, on a toujours vécu ça. Une première annonce où on dit on va en douceur, mais tout va bien se passer, on se rend compte que ça ne se passe pas bien, on nous annonce des dizaines de centres, et puis ça va mettre du temps. Mais ce qui est rassurant, si on prend l'exemple des masques ou l'exemple des tests, c'est qu'au final, on sait faire.
On ne peut pas dire d'un côté, ça ne va pas et ça ne va pas assez vite. Et puis quand il y a des annonces, dire c'est de la com' et c'est des effets d'annonce.
Il se passe
des choses quand même, Sophie Dravinel.
Mais de fait, là où je vous rejoins, c'est qu'effectivement, on est quand même vraiment dans la communication. Il y a eu, par rapport à ce qui était annoncé avant le 31 décembre en termes de livraison de doses de vaccins, près de la moitié de ce qui était prévu. Donc il y a a priori quand même un souci d'approvisionnement, même si on nous garantit le contraire.
Attendez,
et même si on nous garantit que fin février, on arrivera.
On a reçu 500 000 vaccins qui sont dans les frigos français.
Oui, mais
et on en attend 500 000 supplémentaires.
Bien sûr, mais par rapport aux besoins.
Si vous n'avez pas des centres de vaccination ouverts, grands, partout en France, vous n'y arriverez pas. Ces vaccins, ils ont une durée de vie limitée. On ne peut donc que vacciner beaucoup en très peu de temps. Et pour le moment, nous n'étions pas organisés pour faire ça. Mais pour une raison toute simple, ce n'était pas la stratégie de la France.
Oui,
la stratégie de la France était de commencer par les EHPAD.
Mais c'est en train de changer.
Je ne sais pas si elle change.
Je crois, mais ça vous sera confirmé demain matin sans doute, je crois que ça change. Et que justement, si vous voulez, on va chercher des centres beaucoup plus importants, salles de congrès, etc., pour vacciner.
Mais
pour l'instant, les médecins libéraux, non, aucune, si vous voulez. Ce qui recoupe, de toute façon, ce que viennent de dire mes deux camarades, là, c'est que les médecins libéraux n'ont aucune information. Et les maires, si vous voulez, leurs convictions, ceux que j'ai interrogés, moi, je ne me fais que le porte-parole. Mais vous avez raison d'insister. C'est en train de changer.
C'est très vraisemblable.
Ouais, moi, j'attends de voir.
Mais les doses de vaccins en stock, il n'y en a pas, pour toute façon, disponibles. Pour essayer
On verra dans les prochains jours, Sophie Draguignan, mais 300 centres de vaccination, je vais jusqu'au bout, mis en place d'ici quelques jours, nous dit Olivier Véran. 600 centres à la fin du mois de janvier. Alors, on peut regretter qu'on n'ait pas mis en place plutôt des vaccinodrones, les Allemands, mais on en prend le chemin maintenant.
Oui, mais alors,
Sophie,
ce qui est très curieux, c'est qu'aujourd'hui, Jean Castex a repris la parole à Toulon, ce qu'il n'avait pas fait depuis longtemps, en assumant le chemin qu'il prend, et je le cite, ils disent « on a un chemin que nous traçons et que nous suivons ». C'est-à-dire, et il assume absolument cette stratégie qu'il avait, sans vouloir a priori la changer, en disant que les polémiques n'aident absolument personne, n'apportent aucune solution, etc. Oui. Et donc, pour lui, ça n'est que de la polémique politicienne, ce qui s'est dit.
Est-ce que vous êtes d'accord? Il y a une réaction...
C'est un peu fort de café, d'ailleurs, c'est sa déclaration. Mais enfin, bon.
Une réaction de politique, justement. Xavier Bertrand disait ce matin que Emmanuel Macron, le président, a commis une faute gravissime. Il n'y a pas de stratégie de vaccination en France. Est-ce qu'on est d'accord? Parce qu'il y en a une, stratégie de vaccination.
Il y a une politique qui a été mise au point. On a vu ce que ça a donné, puisque le président lui-même, sincèrement, ou en tout cas, si vous voulez, en tout cas, il a poussé cette colère, si vous voulez, ce cri de colère.
Il a suivi la Haute Autorité de Santé publique.
En quelque sorte, les gosses diraient, c'est une feinte. En tout cas, pour changer, puisqu'il veut tout secouer, il veut tout remuer, il veut aller rapidement, il veut accélérer. Mais quand vous savez que, par exemple, vous prenez l'exemple israélien, ils sont à 1 200 000. Quand étaient prêts, notamment, les stocks? Les vaccinodromes.
Comment ont-ils eu leur stock? Oui, je suis pas sûr que les finances.
Pas tous.
Comment ont-ils eu leur stock?
60%.
En payant
40%, ils l'ont payé au prix. Mais les Israéliens ont une autre idée, si vous voulez, et une autre organisation, une véritable logistique, notamment militaire, comme la Bundeswehr, d'ailleurs, en Allemagne, qui a beaucoup aidé.
Après, ils sont un peu moins nombreux que nous aussi.
Oui, mais bien sûr, mais il n'empêche que le 20 décembre, ils étaient prêts.
Des vaccins sur un territoire comme le nôtre, avec 70 millions d'habitants. Êtes-vous d'accord pour dire que la lenteur de la vaccination française est un symptôme de notre déclassement? C'est l'économiste et normalien Antoine Lévy qui écrit ça dans les colonnes du Figaro.
Alors, je ne sais pas si ça peut aller si loin. C'est en tout cas un symbole du fait qu'on a une bureaucratie qui a du mal, dans les temps de crise, à se mettre à ce point-là en mouvement. On a, à l'inverse, des bureaucraties qui sont exceptionnelles. Et il faut arrêter toujours de se mettre la tête dans le sable. Quand vous regardez ce qu'on a été capable de faire d'un point de vue économique, on a une direction du Trésor qui est exceptionnellement efficace, et sûrement l'une des plus efficaces au monde. Force est de constater que cette crise montre une chose, c'est que quand on parle de la faillite de l'hôpital public, elle est réelle, au quotidien, pour nous, ce qu'on voit, mais elle est réelle derrière, semble-t-il. On a une faillite globale de l'organisation de notre service de soins. Et ce que disaient les soignants et qu'on a sûrement...
Emmanuel, l'hôpital, c'est une chose, mais la Haute Autorité de Santé publique qui a donné les prérogatives au président de la République et au gouvernement pour cette stratégie vaccinale, on a entendu sa présidente qui s'en est expliquée et qui a dit « j'assume ». C'est aussi leur responsabilité. Je ne sais pas si vous avez écouté ce que racontaient les employés de la mairie de Paris qui sont dans le monde aujourd'hui, qui sont assez symptomatiques de ces lourdeurs administratives. En décembre, par exemple, la mairie de Paris avait proposé de louer 4 à 5 supercongélateurs pour stocker les vaccins. L'ARS leur a répondu pas la peine, on va les stocker dans les grands centres de l'État.
Depuis, prenez un autre exemple typique, je trouve. Les tests à la descente des avions. On a été l'un des derniers pays au monde à être capable de l'organiser. On est la première destination touristique au monde.
Alors comment on l'explique ça?
Mais parce que, une fois de plus, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord entre l'ARS, ADP, qui est Aéroport de Paris, et les autres, parce qu'on avait cette lourdeur administrative, et c'est énorme, qui compliquait tout.
Une lourdeur administrative très typique, et j'en parlais cet après-midi avec Laurence Rossignol, qui est vice-présidente du groupe socialiste au Sénat, et qui, elle, me disait, elle le voyait bien, ce sont tous les étages de cette administration qui ouvrent des parapluies pour se protéger des risques aussi, des attaques et des risques au pénal de l'État.
On parle beaucoup de l'ARS. C'est essentiel d'expliquer pourquoi tout ça a changé depuis 2010. La tendance lourde est d'avoir expulsé les préfets et les élus des conseils d'administration de l'ARS. Et à partir de là, on n'a laissé que des préfets sanitaires, si vous voulez. Et cette tendance lourde a fait que ce sont des sortes de comptables qui ont diminué, si vous voulez, notamment les budgets de soins. Ce sont les principaux responsables et ils sont toujours dans la même, si vous voulez, logique philosophique. Et pas du tout pour... ils sont absolument incompétents pour installer, incompétents pour traiter la logistique. Alors, le parent pauvre aujourd'hui de l'administration et des services
publics. Ce qui est un peu inquiétant dans tout ça, c'est que sans vaccination, pas de relance économique, évidemment, surtout si la circulation du virus reste forte. Le maintien du couvre-feu, j'ai lu que c'est 10% de PIB en moins, à peu près. L'immunité collective, pour l'atteindre, il faudrait vacciner 26 millions de personnes. 26 millions de personnes, on en est loin. Ça veut dire qu'on n'est pas à l'abri d'un nouveau confinement, pour parler clair, Emmanuel.
Bah, là, j'ai aucune info en particulier, mais effectivement, quand vous regardez les données épidémiologiques, et puis surtout, s'il y a bien une seule donnée qui est peut-être à regarder, quand vous voyez que la Grande-Bretagne se reconfine, quand vous voyez que l'Italie se reconfine, quand vous voyez que d'autres pays autour de nous se reconfinent, c'est vrai qu'on pourrait se dire, ça paraît étonnant qu'on soit une île et qu'on réussisse à ne pas se reconfiner. Et après, c'est vrai que la grande question, même pour l'économie, c'est de se dire combien de temps l'économie peut tenir des chocs de confinement. Parce que vous avez une partie de l'économie qui marche bien. Franchement, le mois de décembre, pour tout ce qui est lié aux dépenses de Noël, a été globalement assez bon. Je vois hier, par exemple, sur l'antenne d'Europe 1, la patronne de la Redoute disait même que c'était le meilleur Noël de son histoire. Le patron de Sephora est venu dire que c'est le meilleur mois de décembre de l'histoire. Donc, vous avez des secteurs qui fonctionnent. Mais c'est vrai que plus ça va durer, plus ça va impacter gravement des secteurs qui sont en difficulté.
Alors, on parlera dans quelques secondes de Jean Castex. Vous savez qu'il vient de fêter, je ne sais pas si le mot est juste. En tout cas, ça fait 6 mois qu'il est arrivé à Matignon. L'enfer de Matignon, dit-on souvent. Est-ce que c'est le cas pour lui ? On en parle après la pause. À tout de suite.